Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique radiophonique. Bienvenue sur Point d'orgue. Alors pour ceux d'entre vous qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Jean Persil, je suis le fondateur et le directeur artistique de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin à Toulouse. Alors certains d'entre vous me connaissent déjà puisque je fais cette émission depuis un an sur Radio Présence, mais pour les nouveaux auditeurs et également ceux de KTO qui nous rejoignent et qui rejoignent cette aventure de la musique liturgique, eh bien voilà, je tenais à me présenter afin que vous sachiez d'où je parle et surtout pourquoi je vous parle de ça, parce que quand on est à Saint-Sernin à Toulouse, on a la chance d'avoir de très beaux chœurs et également un très bel orgue, un chef-d'œuvre d'Aristide Cavaillé-Coll qui nous permettent de mettre en place des choses extraordinaires au niveau de la musique afin de soutenir la prière des fidèles. Et soutenir la prière des fidèles en musique, c'est le but de cette émission où je vais essayer de décortiquer les œuvres qui font le patrimoine musical de la chrétienté et plus spécifiquement du catholicisme. Et on va essayer de voir comment les compositeurs ont mis tout leur talent, leur génie au service de la prière. Donc ça sera beaucoup de culture musicale, mais également parfois on va essayer de décortiquer certaines œuvres, de voir précisément ce qu'un compositeur a voulu dire, de sorte à avoir une nouvelle oreille sur une œuvre que peut-être on connaissait déjà. Et ensuite ça nous permettra d'étoffer toutes ces connaissances et de voir tout ce que l'on peut proposer. Et le but aussi c'est de passer un agréable moment en musique. Voilà donc pour le but de cette émission, et je vous propose sans plus tarder de rester un petit peu en vacances. Je vais vous proposer une destination, c'est pas très exotique, mais ça fait toujours rêver, donc puisque en cette rentrée, voilà, peut-être qu'on n'a peut-être pas très envie de retourner tout de suite au travail, donc je vous offre un petit peu de répit avec des vacances à Venise. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de Venise ? Parce que grâce à l'architecture, pour une fois, la musique a dû répondre. Je vous explique. Si vous êtes déjà rentré dans la basilique Saint-Marc à Venise, vous voyez que cette église, bon, qui est un petit peu byzantine avec des coupoles, possède de nombreux balcons. Et en fait, les musiciens de Saint-Marc se sont rendus compte que, à cause de l'écho, en fait, on n'entendait pas trop, le son se perdait, il y avait des décalages entre les chœurs qui étaient censés parler en premier, enfin chanter en premier, et ceux qui devaient répondre. Et en fait, il y avait une véritable cacophonie. Et alors, certains des compositeurs qui étaient maîtres de chapelle là-bas ont décidé de mettre en place plusieurs chorales qui pouvaient se répondre de balcon en balcon. Et donc, ils ont mis en place une véritable spatialisation de la musique, ce qui donnait un effet extrêmement enveloppant et extraordinaire. Et le plus grand musicien de cette vague-là, qui était à Venise à l'époque, c'est Giovanni Gabrielli, qui est né en 1557 à Venise, et qui est mort dans cette même ville en 1612, et c'est lui qui a été véritablement le maître absolu de cette correspondance entre les divers chœurs qui se répondaient dans la basilique Saint-Marc. Donc ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est d'écouter l'une de ses œuvres. Alors il en a composé un certain nombre, hein, mais ici ça va être un Magnificat. Donc si on additionne le nombre de chœurs qu'il y a, ça fait un Magnificat à 33 voix, rendez-vous compte, c'est quelque chose d'énorme. Et ici en plus, il sera accompagné de certains instruments qui donnent beaucoup d'ampleur à ce morceau-là. Donc le morceau que je vous propose de découvrir, c'est tout simplement un Magnificat. À partir du moment où on dit « Mon âme exalte le Seigneur », on peut imaginer une forme de grande joie, de grande participation et d'ampleur générale, puisqu'on essaie d'ouvrir son cœur à l'immensité de Dieu. C'est, je pense, ici l'effet qu'a voulu avoir le compositeur. Je vous laisse donc découvrir ce Magnificat de Gabrielli.
Thank you.
voyez bien que la musique est tellement extraordinaire que bien entendu elle ne pouvait pas se cantonner à Venise. Alors bien entendu, l'influence de Gabrielli était telle qu'il a eu des élèves qui venaient de l'Europe entière, et en particulier l'un de ses élèves, c'était le jeune Heinrich Schütz, l'un des plus grands compositeurs du XVIIe siècle, qui a appris donc beaucoup de choses de la musique auprès du maître de Venise, Gabrielli. Et pourquoi je vous parle maintenant de Schütz ? C'est bien parce que lui aussi, il a voulu aller pousser le curseur un petit peu plus loin dans la musicalité, et en particulier autour de la polychoralité. Il a voulu aller plus loin, et il a composé, bon, entre autres œuvres, les psaumes de David, qui sont des morceaux absolument extraordinaires. Alors, c'est plus qu'un simple hommage à son maître, hein. Il va aller plus loin, il va, notamment dans le texte, hein, puisque là, il va bien sûr rédiger cela en langue allemande, et il va vouloir avoir vraiment à cœur de mettre le texte en valeur, la langue allemande en valeur, grâce à la musique et à ses chœurs donc dispatchés au sein de l'édifice, et bien entendu, là aussi, avec des instruments qui vont donner une véritable ampleur à cette musique-là. Donc celui que je vais vous proposer d'écouter, c'est le deuxième des psaumes de David de Schütz, qui s'intitule « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ?» Vous allez voir que là, dans les nombreux artifices qui sont proposés par le compositeur, en plus de la spatialisation dont on ne peut certainement pas trop se rendre compte à la radio, mais essayez d'imaginer vraiment d'être assis au milieu d'une nef et d'avoir d'un côté un chœur et de l'autre, dans les voûtes, un autre chœur qui répond avec les instruments qui font ricocher les sons, ça donne une ampleur absolument magistrale. Et notamment, vous allez le voir à la fin, sur l'une des dernières cadences, où vous avez les cuivres qui résonnent et qui s'ajoutent les uns aux autres, faisant presque un escalier qui montrait vers le ciel, vers le paradis. Et c'est tout ce qui est possible de faire avec cette polychoralité. Donc je vous laisse découvrir ce psaume de David de Heinrich Schütz.
Thank you.
Voilà donc toute l'expressivité que ces doubles chœurs peuvent apporter au texte, également à la musique, à sa spatialisation, qui donne une impression d'immersion totale dans la musique, bien entendu portée par l'acoustique des églises, puisque c'est bien entendu lors des offices qu'étaient chantés ces types de musique. Voilà, donc j'ai fait exprès volontairement de vous mettre en miroir Gabrielli et son élève Schütz, avec leur spécificité. Alors certes, d'un point de vue musical, vous voyez, il y a énormément de ressemblances. On sent bien que la culture allemande à cette époque-là était fortement imprégnée de culture italienne, et pour cause, quand vous avez un maître comme Gabrielli, comme vous avez pu l'entendre dans ce Magnificat extraordinaire, forcément c'est inspirant. Et alors cette musique italienne, cette musique vénitienne très spécifique, va ensuite un petit peu décliner, et la fin du déclin, ça sera avec un autre immense compositeur qui s'appelle Claudio Monteverdi. Donc vous voyez la forme que prend le déclin chez les Vénitiens, ça reste quand même totalement exceptionnel. Et ensuite, de nouvelles pages de la musique vont s'ouvrir, bien entendu, et donner d'autres possibilités à la musique. Et c'est justement dans cet après que l'on va se retrouver maintenant, parce qu'on n'allait pas croire que c'était le XVIIe siècle qui se cantonnait à faire des choses avec plusieurs chœurs. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une intention de proposer une expérience musicale. Et alors, ça vous arrive dans des festivals de musique, parfois même pas du tout de musique classique, d'avoir de la musique dite spatialisée, donc avec des haut-parleurs, par exemple, à différents endroits, etc. Et aujourd'hui encore, il existe, même dans la musique liturgique, des choses qui sont proposées avec plusieurs chœurs. C'est notamment le cas avec une messe très très belle du compositeur suisse Franck Martin, qui est né le 15 septembre 1890 à Genève, et qui est mort aux Pays-Bas en 1974, et qui nous propose une messe absolument sublime pour double chœur. Je vais ici vous proposer d'écouter le Kyrie de cette messe, afin que vous puissiez voir la différence, bien entendu, entre cette musique du XVIIe siècle que nous avons connue et fréquentée en début d'émission, et celle du XXe siècle, absolument extraordinaire, de Franck Martin. Thank you. c'est l'extase de ce premier mouvement, si j'ose dire, donc de ce Kyrie de la messe pour double chœur de Franck Martin, interprété ici par la maîtrise du Conservatoire de Toulouse sous la direction de Marc Hopstadt. Donc voilà, une façon aussi de chanter qui est très particulière, puisqu'avec les enfants, bien entendu, cela apporte beaucoup d'angélisme, de candeur dans la voix, alors que c'est une œuvre vraiment de profonde maturité, puis d'une assez grande difficulté d'exécution. Toutefois, là aussi, mon objectif est souvent de le raccord à la liturgie. Je ne sais pas si vous avez pu vous en rendre compte, mais finalement, malgré l'écriture complexe, le chant est assez facile. D'ailleurs, il est un petit peu tiré de la façon de faire du grégorien, c'est-à-dire que vous avez des sortes de mélismes qui sont là, la mélodie se suit, les notes sont assez conjointes, ce qui fait une forme assez agréable de chant, et comme si c'était une référence au grégorien. Alors, ce n'est pas tiré véritablement du grégorien, mais évidemment, il y a là une référence explicite à la façon de chanter grégorienne. Bien entendu, les compositeurs d'hier et d'aujourd'hui ont toujours eu à cœur de respecter cet héritage extraordinaire qu'est le chant grégorien. Voilà donc pour cette messe, bien entendu, je vous invite à découvrir l'entièreté de cette messe. Je vous invite également à découvrir les autres œuvres des compositeurs que nous avons vus en début d'émission, que ce soit Gabrieli ou Schütz. Et ce qui est bien entendu intéressant, c'est à chaque fois de faire cette comparaison entre les compositeurs d'hier et d'aujourd'hui, comment ils ont pu, avec les matériaux qu'ils avaient, pouvoir porter la prière des fidèles et faire une proposition liturgique tout à fait extraordinaire. En tout cas, je trouve qu'avec la messe de Franck Martin, qui est bien entendu une messe très contemplative, mais vous avez beaucoup de choses qui sont porteurs de sens. Vous avez quand les hommes rentrent presque comme des vagues sur les Kyriés, comme si c'était ces demandes de pardon, ces supplications qui ont lieu et qui sont envoyées donc vers le Père avec ces voix séraphiques des enfants qui renvoient vers le ciel. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment sur Point d'Orgue et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes musicales. À bientôt.